À voix nue. Cette semaine, Maëlys Bessery rencontre Alain Duhamel. Ce soir, nouvelle ère politique, nouvelle ère médiatique.
Alain Duhamel, bonsoir.
Bonsoir.
Les années 2000 voient émerger un nouveau paysage politique et médiatique dans lequel les réseaux sociaux ont une place accrue. Conscient de ces évolutions, vous, peu à peu, vous rassemblez des notes qui, plus tard, reviendront dans un livre qui sera ce journal d'un observateur. Qu'est-ce que vous avez souhaité faire, justement, en entreprenant ce travail de mémoire, de témoignage ? Est-ce que c'était l'idée de témoigner d'un monde qui était en train de changer ?
On peut dire que, d'une certaine manière, c'est l'histoire du vieux monde, en politique.
Vieux monde, c'est celui d'avant quoi ?
C'est celui d'avant Macron. En fait, en politique, je veux dire, en structure politique. Et pour l'instant, il y a un nouveau monde, mais dont on ne sait pas ce qui va devenir, ni comment il va s'organiser. Hein. On sait ce qu'on a quitté, on ne sait pas ce qu'on a trouvé. Et à mon avis, on ne le saura pas dans l'année qui vient non plus. Ce que j'ai voulu faire avec ce livre, c'était d'abord piocher dans mes souvenirs pour ceux dont je pensais qu'ils pouvaient être intéressants pour les lecteurs, donc qui apportent quelque chose. Ensuite, essayer de marier ce qui est souvenir personnel, histoire politique, anecdote individuelle, et je dirais sentiment, perception des climats qui ont été extraordinairement différents d'une période à une autre.
Politique et du paysage médiatique en parallèle.
Oui, absolument, absolument. Mais à partir du moment où il y a une part d'autobiographie, évidemment, l'univers médiatique est présent. J'ai voulu, au fond, essayer de marier un itinéraire personnel, une histoire politique et, si on veut, culturelle, et puis l'analyse de la métamorphose d'un régime et d'une société politique. Alors, c'est plusieurs choses, et j'ai essayé de faire ça de manière qui soit compréhensible et accessible, évidemment.
Alain Duhamel, vous-même, vous êtes un lecteur de mémoires. Vous avez lu
Vorace,
les mémoires.
Vorace.
Vous avez lu les mémoires des hommes politiques. Vous avez été marqué par celle du général de Gaulle par la suite. Qu'est-ce que, justement, vous imaginiez de l'entreprise intellectuelle que c'était que d'écrire, justement, ces mémoires?
Ce qui était compliqué, c'était pas du tout l'expression écrite, parce que j'ai la chance de... D'abord, je suis très entraîné, quand même. Puis j'ai la chance d'écrire assez facilement. Donc, le problème n'était pas de l'expression. Le problème était plutôt la construction, c'est-à-dire comment arriver à rendre compréhensible et clair, moi je tiens toujours beaucoup à la clarté, ce qui était à la fois une histoire politique de la France, une histoire personnelle d'un journaliste, d'une certaine manière de l'évolution du journalisme aussi, et puis de personnages, de portraits, donc de galeries de personnages, et ce qui est quand même beaucoup mon ressort, de la métamorphose d'une société politique. Jusqu'au moment où, avec l'élection d'Emmanuel Macron, ça a basculé.
Alors, comment est-ce que vous avez travaillé, conscient quand même que vous aviez à la fois traversé une longue période politique, que le paysage de la Ve République avait été celui dans lequel vous avez exercé votre profession, de vos débuts jusqu'à votre fin de carrière, conscient aussi que vous avez eu un rapport de proximité et un accès
particulier
à plusieurs présidents de la République. Quel matériau pour vous historique, quel témoignage vous pensiez laisser justement ?
Alors, d'une part, j'avais pris des notes, pas des notes exhaustives du tout. C'était plutôt des sentiments ou des climats à une date précise, mais qui pour moi étaient des points de repère. Puis j'ai la chance d'avoir une assez bonne mémoire, donc ça me permettait de quasiment reconstituer les conversations. Quand je me rappelle un épisode, je me rappelle la conversation, même si c'est 30 ans après. Donc ça m'a aidé. J'ai passé énormément de temps, c'est de loin ce qui était le plus difficile et le plus astreignant, à vérifier les dates et la chronologie. Parce que quand on a beaucoup de souvenirs, surtout vis-à-vis par exemple de certains dirigeants politiques qu'on a côtoyés pendant 40 ans, il arrive qu'on attribue à une période ce qui en fait était dans une autre. Donc j'ai eu un long travail de vérification. Bon, et puis je m'appuyais sur, évidemment, j'ai une assez bonne bibliothèque politique donc et historique. Donc j'avais des livres de référence sur lesquels je pouvais faire ma vérification, heureusement. Et je crois que je n'ai pas commis d'erreur de date, à ma connaissance, puisqu'en tout cas personne n'en a relevé.
Alors vous avez utilisé vos notes. Comment est-ce qu'on se fie justement à sa mémoire ? Comment est-ce qu'on devient le témoin ? Il y a justement eu plusieurs ouvrages, plus ou moins bien accueillis, de natures différentes. Il y a eu les verbatims, il y a eu d'autres ouvrages de Perfit aussi, qui ont été accueillis différemment les uns des autres. Comment est-ce que vous vous positionniez, Alain Duhamel, vis-à-vis de ces mémoires-là? Alors vous, vous êtes journaliste, c'est encore différent.
Alors, aussi bien Perfit que Attali étaient des auteurs qui avaient un accès privilégié, même presque hégémonique, l'un au général de Gaulle, l'autre à François Mitterrand. Ils prenaient des notes sans arrêt. Eux, ils avaient des verbatims. Alors, on a beaucoup discuté, à propos de l'un et surtout de l'autre, de la véracité de certains épisodes. Bon, mais je dirais qu'ils avaient un matériau quasi quotidien. Alors j'ai vu, puisque j'avais fait un documentaire sur le CT de Gaulle de Perfit, donc j'ai vu comment il travaillait. Et il avait une espèce de pièce blindée, protégée évidemment contre tout risque d'incendie, avec un système de tiroirs, etc., par thème, par chronologie, par personnage, absolument incroyable. On avait l'impression d'être dans une salle d'ordinateur. Et puis il en sortait un texte qui était très littéraire, hein. Le CT de Gaulle est d'ailleurs passionnant, mais que je ne prendrai pas au pied de la lettre dans tous les domaines et même parmi les mots du général. Parce que je trouve qu'il y a une telle accumulation de talents qu'on se demande quelle est la part du mémorialiste et quelle est la part de l'homme d'État dans cette histoire-là.
Vous, dans votre journal d'un observateur, Alain Duhamel, vous avez gardé le positionnement qui a été le vôtre pendant votre carrière, à savoir le statut d'observateur, c'est même le titre, oui. Ce rôle de commentateur aussi, et une volonté de faire un récit un peu personnel et en même temps... peut-être pas neutre, mais avec une forme de modération que l'on vous connaît bien. Est-ce que finalement, c'est pas une gageure que de vouloir garantir une forme d'objectivité dans un récit à la première personne ?
Alors, je crois pas du tout à l'objectivité. Je crois que l'objectivité, c'est un horizon qui s'éloigne quand on va dans sa direction. En revanche, je crois à la volonté d'impartialité. Et ce que j'ai essayé dans ce livre, ça a été de marier l'impartialité vis-à-vis des faits et puis, mes réactions, ma sensibilité et la façon dont moi je les ai vécues et analysées.
Donc c'est une honnêteté intellectuelle.
J'essaye de faire, oui, si vous voulez, mais surtout j'essaye de faire la part de ce qui sont des faits avérés et puis de la manière dont moi je les ai ressentis et interprétés, ce qui est par nature contestable, hein, bien sûr, mais qui en tout cas est authentique.
L'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy après une première campagne électorale surprenante, très énergique, en tout cas c'est comme ça que vous la décrivez, Alain Duhamel, est-ce qu'elle instaure pour vous le début d'un nouveau monde, justement ?
Oui, Nicolas Sarkozy, c'est en réalité, c'est d'abord l'accélération du temps politique, c'est le quinquennat, et il se trouve que comme son quinquennat a été ahurissant, dans la mesure où il a été le théâtre de trois grandes crises en cinq ans. Une crise financière, une crise monétaire et une crise bancaire. D'ailleurs, c'est dans l'autre sens que ça s'est passé, mais enfin, peu importe. C'est sans précédent. Le temps était frénétique. Alors déjà, sa campagne, qui était à mon avis la meilleure campagne à laquelle j'ai assisté, en dehors de celle de Valéry Giscard d'Estaing en 1974, mais qui était une campagne à l'américaine, très novatrice, très spectaculaire, très entraînante, et qui lui a permis d'être élu, alors même qu'il était à couteau tiré avec le président sortant qui appartenait à sa propre formation, Jacques Chirac. C'est pas banal. Mais surtout, le temps est devenu frénétique. Et ses relations avec les journalistes sont devenues... tumultueuses est un mot très faible. Totalement antagonistes. Bon, et moi j'étais un peu à côté de ça.
À côté de ça, ça veut dire quoi ? Vous avez continué à avoir des entrevues présidentielles avec, avec Nicolas Sarkozy, comme vous en aviez eu avec Jacques Chirac ?
Plus souvent qu'avec Jacques Chirac, avec, je pense, plus de confiance dans les règles du jeu, disons, parce que Jacques Chirac était quand même de tempérament très très méfiant, notamment vis-à-vis des journalistes. Je dirais que Nicolas Sarkozy n'était pas, comme François Hollande d'ailleurs, n'était pas assez méfiant. Mais alors d'abord, je le voyais assez régulièrement parce qu'il recevait assez souvent, contrairement à Jacques Chirac et contrairement d'ailleurs aussi à François Mitterrand.
Il vous appelait aussi ?
Oui, absolument. Mais il recevait assez souvent des groupes d'éditorialistes qui variaient d'une fois à l'autre. Et puis moi, je le voyais aussi avec Jérôme Jaffray et Jean-Marie Colombani, puis quelquefois en tête-à-tête aussi. Donc je l'ai vu pas mal et effectivement, il me téléphonait aussi. Il avait le goût d'expliquer ce qu'il faisait avec un dynamisme unilatéral. Hein. Évidemment, il est ce qu'il est, c'est un passionné. Mais c'était quand même quelqu'un d'intéressant dans les crises. Et moi, ce qui me frappait, c'est que face aux vraies crises, il était vraiment très bon, qui étaient des crises internationales, qui n'étaient pas des crises françaises.
La crise, vous faites allusion à la crise de 2008, c'est la
voilà,
crise
par
des
exemple.
Crimes.
Par exemple, mais vous savez, dès 2007, hein, dès l'été 2007, c'était le début de la crise bancaire. Bon, et ça n'a pas arrêté. Et donc, dans les grandes crises, il était très bon. Et entre les crises, il créait des crises. Et à son détriment, bien entendu. Et donc, ça donnait un sentiment de gouvernement, de présidence à la fois extraordinairement énergique et dynamique, et en même temps totalement frénétique et épuisante.
Qu'est-ce que ça vous a appris justement sur les relations entre journalistes et hommes politiques que l'arrivée de Nicolas Sarkozy puis de François Hollande avec des rapports très différents de ce qui avait pu exister bien sûr à la période gaulliste et de ses successeurs, mais aussi très différents de ce que vous avez pu connaître même encore sous Chirac?
Alors je dirais qu'à partir de Nicolas Sarkozy, et ça reste vrai aujourd'hui, ça a été largement la fin de la considération respective. Ça a été largement la fin du respect des deux côtés. Ça a été largement la fin de la confiance des deux côtés. Et ça a été l'entrée dans un univers médiatique ensauvagé, frénétique, totalement passionnel, totalement subjectif, totalement irrationnel, totalement démesuré.
Mais vous parlez médias ou vous parlez des réseaux sociaux, là ?
Mais de tout le monde. Mais de tout le monde. Les réseaux sociaux, alors évidemment, c'est la pointe avancée. Les réseaux sociaux, à la fois, c'est une source d'information nouvelle formidable. C'est une source d'expression inimaginable il y a 20 ans. Donc, je ne sous-estime pas ce que ça représente, au contraire. Et en même temps, c'est un concentré d'horreurs, de fantasmes, de mensonges éhontés, d'injures, de conspirationnisme. Je veux dire, c'est à la fois une liberté supplémentaire et une violence oppressive extrêmement redoutable.
Mais Alain Duhamel, est-ce que de dire que le journalisme est entré dans une ère ensauvagée, est-ce que ça n'est pas finalement
un vieux monsieur ?
Insulter l'avenir, en tout cas, insulter ses successeurs, que de dire « après moi le déluge ».
Non, mais d'abord, je ne suis pas du tout comme ça, je ne suis pas du tout « après moi le déluge », au contraire. Mais je suis vieille baderne physiquement, ça, il n'y a aucun doute. Intellectuellement, j'espère un peu moins. Il ne faut pas nier ce qui est. La façon que les journalistes, alors je ne vais pas dire tous les journalistes, mais les journalistes, globalement, ont de traiter les présidents ou les opposants, de traiter le personnel politique, de se comporter face à eux, je veux dire, on a changé d'univers. On a changé d'univers, mais les hommes politiques et les femmes politiques ont aussi leur part de responsabilité, bien entendu. D'autant plus qu'il y en a qui en jouent. Alors, il y a le fait qui est alors là un fait sociologique sur la longue durée, qui est quand même le triomphe de l'individualisme sur l'autorité, qui en matière politique est quand même très spectaculaire. Mais quand vous voyez la façon dont les Français interpellent aujourd'hui, par exemple, Emmanuel Macron, on a l'impression que maintenant, il y a une espèce de compétition entre qui ira le plus loin que l'autre. Parce que celui qui posera une question, là je parle pas des journalistes, je parle des Français qui rencontrent, celui qui posera une question vraiment agressive et vraiment insolente, il va se retrouver sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les chaînes d'information et quelquefois d'ailleurs dans la presse traditionnelle. Il va être la vedette de 24 heures. Et on a l'impression que le lendemain, il y en aura un autre qui essaiera d'aller encore un coup plus loin, comme le syndicaliste de Sud qui voulait l'empêcher de commencer son discours, par exemple. Bon, il s'est d'ailleurs fait siffler par ses camarades, mais c'est un autre problème. Donc, Avant, bon, je veux dire, évidemment, si on compare la période de Gaulle à la période maintenant, on a l'impression qu'il y a 5 siècles de différence en matière d'information. Et je ne dis pas, d'ailleurs, je vous ai dit le contraire, que la période de Gaulle n'était pas la période idéale pour l'information non plus. Mais en ce qui concerne les relations personnelles politiques, journalistes politiques, je pense qu'au début de la Ve République, l'emprise des politiques sur les journalistes était scandaleuse et qu'aujourd'hui, l'emprise des journalistes sur les politiques est navrante.
Au moment où François Hollande est président de la République, c'est une période très dure aussi qui s'annonce avec la période des attentats, des crises. Là aussi, le paysage journalistique connaît des traumatismes importants. Comment est-ce que vous avez justement traversé cette période, Alain Duhamel ?
Je l'ai traversée avec passion, comme toujours, avec inquiétude, comme de plus en plus. Et là, je ne crois pas du tout que ce soit un phénomène de vieillissement personnel. Je pense qu'on est entré dans une période de plus en plus dangereuse. De plus en plus dangereuse parce qu'on sait très bien qu'on n'a pas réglé vraiment nos problèmes économiques. Bon, Emmanuel Macron essaye certaines choses, mais enfin, on ne peut pas dire qu'on ait réglé nos problèmes économiques. Parce que le modèle social français passe pour être de moins en moins protecteur. Il l'est beaucoup plus que tous les autres pays au monde. Mais n'empêche qu'il est ressenti comme insuffisant et même comme s'effilochant par les gens. Parce que la violence quotidienne, et pas simplement la violence des faits divers, la violence dans les rapports est beaucoup plus marquée aujourd'hui qu'elle l'a été, et parce que la stabilité internationale aujourd'hui redevient quelque chose d'anxiogène. On est dans une période, vous savez, de réarmement militaire massif. La Chine devient, ce qui n'était pas du tout le cas, un pays militaire très puissant, mais la Russie fait des efforts considérables, alors même que son économie est en très mauvais état, pour un réarmement prioritaire. Et puis à côté de ça, le président américain décide unilatéralement qu'un accord de limitation des armes nucléaires à moyenne portée, eh ben il l'annule, comme ça, comme si c'était quelque chose qu'on pouvait faire en passant et sans consulter ses alliés. C'est une période vraiment d'instabilité, et de risques, avec en plus le phénomène du terrorisme, plus les controverses infinies et qui ne font que commencer autour de l'immigration, c'est une période d'instabilité foncière. Et donc, ça se retrouve aussi, évidemment, dans les médias.
Alors, vous disiez, le Nouveau Monde commence réellement avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron émerge sous la présidence Hollande, justement, président que vous décrivez comme, on le sait, impopulaire, président de la normalité, président peut-être parfois injustement jugé aussi oui. À cette période. Oui. Vous avez l'air de le dire aussi.
Oui, oui, j'ai pas seulement l'air, je le dis. François Hollande a commis une grosse erreur dès le début, mais ça, comme j'ai relevé, j'ai pas été le seul, mais enfin, disons que j'ai bien donné. En ne théâtralisant pas son rôle, voilà. Quand on est président en France, qui est un pays avec un pouvoir exécutif plus fort que le pouvoir législatif et que tout autre pouvoir, si on veut être élu, il faut avoir la volonté d'incarner un personnage qui est forcément d'une manière ou d'une autre néo-monarchique, forcément. Et lui n'a pas voulu. Il a été d'ailleurs, à mes yeux, de loin le plus démocrate de tous les présidents de la Ve République. Il est le seul président, François Hollande, à ne jamais être intervenu auprès des journalistes et en matière d'information, le seul.
Vous dites le plus respectueux ?
Le seul, vraiment là le seul. Et en matière judiciaire également. En matière judiciaire, il s'est toujours interdit toute intervention. Donc, il est le plus démocrate. Mais malheureusement, alors qu'on peut être démocrate et charismatique, lui, il s'est refusé à tout charisme. Sa politique, au début, je l'ai trouvée confuse et maladroite, notamment avec le choc fiscal qui était évidemment nécessaire, mais qu'il aurait fallu étaler et pas concentrer comme ça sur 18 mois. J'ai trouvé qu'en revanche, ensuite, dans les 3 dernières années, à partir de janvier 2014 en réalité, donc ça fait les 3 dernières années, la politique économique était intelligente et d'ailleurs a donné des résultats. Elle a atteint ses résultats. Simplement, pas de chance, elle les a atteints après l'élection présidentielle suivante. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées, on n'en a pas conscience, pas assez. Mais moi, je les suis de près. Il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées grâce à ce qu'il a fait. Autrement dit, il est sous-évalué. Mais il est sous-évalué de son fait. parce qu'il n'a pas voulu se valoriser. Le problème de François Hollande, c'est qu'il est sous-évalué parce qu'il s'est refusé à se valoriser lui-même, alors qu'il avait tout à fait les capacités, et même, contrairement à ce qu'on croit, l'esprit de décision, puisque ça, il l'a démontré en matière militaire, dans des circonstances vraiment difficiles.
Alain Duhamel, à la fin de votre journal d'un observateur, vous dites « ma carrière est sur le point de s'achever, j'ai 78 ans, et j'ai vu émerger une figure que j'attendais pas, celle d'Emmanuel Macron, et des élections dans lesquelles les deux partis politiques principaux ont été évincés. »
Ils n'ont pas été évincés, ils ont explosé. Ils ont été éparpillés dans la nature. Quand je dis nouveau monde, Emmanuel Macron, je ne suis pas en train de dire Emmanuel Macron invente un nouveau monde. Je veux dire Emmanuel Macron est le produit et la figure d'un nouveau monde et qui s'est produit, qui s'est concrétisé à l'occasion de son élection. L'occasion de son élection, c'est quand même d'une part la montée des extrémistes, 40% au premier tour. On n'a jamais connu ça dans l'histoire.
Là, vous comptez les votes de Jean-Luc Mélenchon d'un côté.
Pas d'extrême gauche, d'extrême droite. C'est-à-dire des votes qui se présentent eux-mêmes comme des votes de rupture. De rupture avec la politique économique, avec la politique sociale, avec la politique européenne, avec la politique militaire, avec les alliances, etc. Donc 40%, on n'a jamais connu ça dans toute l'histoire politique française, hein, depuis la Révolution. Bon, un phénomène de dégagisme prodigieux. Là aussi, on n'avait jamais vu ça. Tout ce qui était force institutionnelle a volé en éclats. Mais en plus, avec une facilité absolument incroyable. Et alors même que Emmanuel Macron n'avait pas d'appareil, pas de parti, pas de mandat, pas de passé, pas de notoriété. En réalité, il était très peu connu au moment où il est devenu candidat. Les gens savaient vaguement qu'il était ministre de l'économie, mais des ministres de l'économie, il y en a eu 20 hein, depuis le début de la Ve République. Quand je dis 20, il y a dû en avoir plus d'ailleurs. Bon.
C'est une nouveauté de la Ve République.
C'est une autre phase de la Ve République qui commence. On sait qu'elle sera différente et on ne sait pas ce qu'elle sera. Parce que pour l'instant, rien n'est fixé. On est dans une période quand même, qui est une période non seulement de nouveautés considérables, mais d'imprévisibilité assez rare.
Qu'est-ce que vous voulez dire par nouveauté ? C'est la nouveauté du personnel politique, par exemple ? Des personnalités mises en avant, des profils, des projets ?
C'est surtout le naufrage de toute une génération et la dislocation de tout un système politique. On sait ce qui n'est plus et on ne sait pas ce qui sera. Et donc, c'est une période qui est intellectuellement très intéressante, très novatrice, mais qui n'est pas très confortable.
Vous, comment est-ce que vous envisagez justement la fin de votre carrière journalistique, Alain Duhamel ? Est-ce que vous imaginez une sorte de transfert intellectuel vers justement les livres que vous faites depuis toujours et peut-être à plein temps ? Ou est-ce que votre activité a commencé légèrement à diminuer, mais pas tant que ça ?
Écoutez, si, ça a commencé à diminuer, puisque je ne suis plus responsable et je ne veux plus l'être déjà depuis plus de 5 ans d'émission à la télévision, qui est quand même quelque chose de chronophage et d'important. Et puis parce que j'ai limité de plus des 2/3 mes collaborations à la presse écrite. Donc j'ai déjà quand même beaucoup limité les choses, mais je vais continuer à le faire. La question est de savoir à quel rythme, et ça, c'est un compromis entre ma femme et moi. Elle souhaite que ça soit le plus rapide possible et le plus global possible. Et moi, je me passionne autant aujourd'hui pour ce qui se passe autour de moi que je me passionnais il y a 50 ans. En même temps, je sais très bien que physiquement, je ne suis pas immortel, que je peux très bien être mort demain matin, que j'ai dépassé d'ailleurs d'assez peu, mais enfin dépassé la moyenne d'espérance de vie des hommes. Bon, et je le sais très bien, et donc je ne m'imagine pas dans 5 ans continuant à faire ce que je fais, ni même probablement dans 3 ans, ni sans doute dans 2 ans, ni peut-être dans 1 an. Franchement, je ne sais pas. En revanche, je sais très bien que je ne suis pas du tout irremplaçable et qu'il y aura d'autres éditorialistes qui feront les choses de manière différente, ce qui est d'ailleurs souhaitable, normal, inévitable. Et puis moi, quand j'aurai arrêté définitivement ce qui ressemble non pas à une carrière, mais à une trajectoire, je pourrais toujours essayer d'écrire des livres. J'ai d'ailleurs quelques idées, mais on verra. Et puis, j'imagine que je serai de temps en temps invité à un débat, quelque chose de ce genre. Parce qu'il faut toujours un vieux monsieur dans un débat, surtout en période électorale, hein, qui ait des souvenirs, qui puisse faire des comparaisons, etc. Bon, je serai le patriarche.
Alain Duhamel, vous parliez de dégagisme d'une partie de la classe politique. Est-ce qu'il existe aussi chez les journalistes le dégagisme ? le dégagisme d'une, par exemple, d'une génération de journalistes qui est peut-être moins versée dans certaines formes de méthodes, de technologies.
Ah, ça, si c'est une façon polie et aimable de me dire que je suis d'une ignorance et d'une incapacité absolue en matière technologique, je vous confirme que vous avez totalement raison. Je suis de ce point de vue un dinosaure qui écrit à la main, qui consulte un dictionnaire soit ici, soit à RTL. J'ai 3 ou 4 dictionnaires dans mon bureau à RTL, au moins 10 fois par jour pour vérifier exactement le synonyme ou bien le mot, exactement être certain que c'est ce qu'il faut, que je passe 6 heures par jour à faire ma documentation.
Bon, vous n'utilisez pas d'ordinateur ?
Je ne sais pas ce que c'est qu'un ordinateur. J'ai commencé à écrire avec un encrier et une plume, au sens littéral, et au fond, j'ai pas tellement changé depuis ce temps-là. Si ça vous amuse, tout à l'heure, je vous montrerai le manuscrit de mon dernier livre. Enfin, je vous montrerai la première page. C'est le contraire de la technologie contemporaine. Donc, évidemment, c'est totalement anachronique. Et donc, il y a une génération de journalistes aujourd'hui qui ont des compétences technologiques que je n'ai pas du tout, qui ont un savoir-faire qui est beaucoup plus large, qui sont capables de faire des choses bien plus différentes que moi j'ai été capable, et qui peut-être n'ont pas le même type de culture. Bon, ben voilà, c'est comme ça.
Vous êtes aussi le journaliste qui apprend par cœur ses chroniques, qui travaille sans papier, sans notes.
Je n'apprends pas par cœur mes chroniques. J'apprends par cœur mon schéma. Le schéma de mes chroniques ou de mes éditoriaux. Et ensuite, j'improvise. Et c'est ce que j'aime. Je pense que c'est plus vivant comme ça. Je pense que c'est plus sincère. Quand on improvise, on est sincère. On n'a pas le temps de ne pas être sincère, d'ailleurs. Ça, dans un éditorial 3 minutes et demie, si vous improvisez, vous êtes obligé d'être sincère. Et puis c'est plus sportif, puis c'est aussi une façon de vérifier chaque jour que mes facultés d'expression ne sont pas trop atrophiées. Donc c'est un bon thermomètre quotidien aussi, et puis c'est un plaisir.
En matière d'interview, est-ce que les choses ont évolué dans ce que vous pouvez entendre, de la manière dont les dirigeants, les hommes politiques sont interrogés ?
Alors je pense qu'il y a des interviews qui continuent à être... des très bonnes interviews comme ce que j'essayais de faire et comme ce que à ma génération beaucoup essayaient de faire. Je pense que Elisabeth Martichoux, par exemple, pose d'excellentes questions sur un bon ton avec une bonne connaissance de ses dossiers. Et je la cite elle parce que c'est RTL, mais je pourrais trouver son équivalent à France Inter. Et Europe numéro 1, par exemple, sans difficulté. Bon, il y a aussi un autre style d'intervieweurs, différents, qui, eux, sont plutôt des catcheurs. Bon, ben, il y a des catcheurs. Alors, évidemment, à mon époque, il n'y avait pas de catcheurs.
C'est quoi, les catcheurs ?
Les catcheurs, c'est ceux qui, non seulement cherchent la bagarre, mais se présentent comme des lutteurs physiques, qui se mettent en scène comme des gladiateurs, si vous voulez, et qui considèrent que l'homme politique, c'est le fauve, et que c'est eux qui sont les myrmidons. Bon,
est-ce écoutez, que Jean-Pierre Elkabbach, face à Georges Marchais, il n'était pas un peu catcheur, parfois,
non,
Alain Duhamel ?
Non, c'était deux monstres sacrés, deux stars qui jouaient un jeu de complicité antagoniste. Tout à fait différent. Non, aujourd'hui, il y a, mais c'est, je ne généralise pas, hein. Il y a à la fois des intervieweurs comme ce que moi je rêvais d'être, en tout cas. Je ne dis pas j'ai été, je rêvais d'être. Bon. Et puis vous en avez d'autres qui essayent quelque chose qui était inimaginable tant qu'il n'y avait pas, justement, information continue, réseaux sociaux, évanescence de l'autorité, imprévisibilité de l'avenir, et donc toute une série de filets personnels qui ont sauté. Bon, c'est vrai que quand j'ai commencé, le journaliste, c'était une sorte de petit Gulliver empêtré avec plein de fils qui le tenaient de partout. Alors moi, j'essayais d'en enlever quelques-uns. Bon, et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de fils.
Merci Alain Duhamel d'avoir participé à cette série d'émissions.
Merci.
De cette rencontre de Maïlys Bessery avec Alain Duhamel. À voix nue, réalisation Anna Schmuck, prise de son Yord Robert, coordination Claire Poinsignon. à Voix Nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.